France Culture.
Jacqueline Lafond, bonsoir.
Bonsoir.
C'est aujourd'hui le quatrième temps de notre série. Hier, nous sommes revenus sur le tournant de l'affaire Roussin, qui a fait du cabinet d'avocats pénalistes que vous dirigiez avec votre mari Pierre Haïck, le grand cabinet des affaires politico-financières. Dans les années 90, vous voyez passer les plus importants dossiers, Pasqua, Bettencourt, etc. Et dans les années 2000, vous défendez à nouveau beaucoup d'hommes politiques et un président, Nicolas Sarkozy, ce qui vous vaut d'être sous le feu des médias et des réseaux sociaux, un élément à prendre en compte dans la défense de vos clients. Mais avant cela, faisons, si vous le voulez bien, un petit détour par Kinshasa. Vous avez défendu un de vos clients, un homme d'affaires, dans une affaire politique et financière, et vous avez découvert là un autre état des prisons et de la justice en République démocratique du Congo.
Oui, c'est vrai, c'était pour moi une expérience marquante, parce que, comme vous le savez, la venue en prison pour la première fois a été un moment qui a marqué mes débuts dans la profession, et que je n'ai jamais oublié. Mais je pense pouvoir dire qu'alors que j'étais allée très souvent en prison en France pendant toutes ces années, lorsque je suis arrivée dans les débuts des années 2000 à Kinshasa pour rencontrer ce client qui était un homme déjà assez âgé, qui était incarcéré à la prison de Makala. Cette prison est surnommée la prison de l'enfer et je peux vous dire qu'elle porte bien son nom. Lorsque je suis rentrée dans cette zone tellement incroyable que je n'en croyais pas mes yeux, j'ai pensé d'abord que finalement nos prisons françaises étaient effectivement des lieux qui devaient être améliorés et je continue à le penser très fortement, notamment en matière de surpopulation. Mais j'ai vu là un spectacle qui restera gravé à jamais dans ma mémoire, tant nous étions effectivement dans une zone, je dirais, de non-droit et de violence. En fait, je défendais un homme dans une affaire avec dimension politique qui impliquait un futur éventuel candidat à la présidence de la République.
Donc un opposant éventuel ?
Exactement, un opposant éventuel. Et je défendais un homme d'affaires d'origine libanaise, mais qui avait fait toute sa carrière à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'étais là-bas avec un confrère qui s'appelle Benjamin Grunler, qui m'avait fait la confiance de me demander d'intervenir à ses côtés dans ce dossier, et avec mon ancien associé François Artufel. Et lorsque nous sommes rentrés dans l'hôpital de cette prison, parce que cet homme était très malade, nous avons assisté à un spectacle incroyable. Il était alité sur un lit qui était d'une saleté inouïe, dans des conditions et d'une absence d'hygiène jamais vues. Il était dans un état tellement scandaleux que, en réalité, nous sommes immédiatement allés voir le directeur de la maison d'arrêt. Nous sommes allés lui dire que ça ne pouvait pas durer comme cela. Nous sommes sortis de là et nous sommes allés directement à la présidence de la République pour essayer de faire passer un mot. Nous n'avons pas été reçus et nous avons forcé un peu le barrage de l'entrée pour que ce mot soit remis en main propre au président pour dénoncer ces conditions. Nous avons fait une conférence de presse et quelques jours après, il a été sorti de cette prison pour être accueilli dans un hôpital plus décent de Kinshasa.
Est-ce qu'il y a besoin justement de ce contact régulier avec la prison pour se souvenir de la mission qui est la vôtre en tant qu'avocate pénaliste, Jacqueline Lafond ?
Je pense que ces liens que nous nouons à l'occasion de ces visites sont essentiels. Je peux vous dire que le regard de cet homme qui nous a vus débarquer tout juste de notre avion de France, parce que son fils nous avait appelé au secours. Il était vraiment dans un état très inquiétant. Et lorsqu'il nous a vus arriver, j'ai vraiment senti dans son regard une sorte d'attente incroyable. Et ce sont honnêtement des moments très forts de l'exercice de ce métier. Et c'est ce qui donne la raison d'être de cette profession qui est parfois plus qu'une profession, c'est plus qu'un métier, c'est une sorte de mission par moment. Et ça lui donne tout son sens.
Alors, vous avez évoqué l'importance des médias, vous aviez remué le ciel et terre pour faire une conférence de presse. Il y a cet élément-là à prendre en ligne de compte, surtout quand on défend des personnalités célèbres. Jacqueline Lafond, c'est la question des médias qui jouent pour ou contre vous, d'ailleurs. Votre cabinet a été le cabinet de la défense de Charles Pasqua pendant de nombreuses années. D'abord, votre mari, puis vous-même. Comment est-ce que vous avez vécu cette affaire-là, justement, sous le feu des projecteurs ?
Dans ces dossiers-là, c'était quelque chose d'assez nouveau pour nous, cette gestion à la fois de cette pression médiatique énorme. Je me souviens qu'à l'époque, il était même difficile de sortir du cabinet sans que des journalistes ne soient présents. Et on a géré ça dans une certaine, je dirais, prudence par rapport à cela. On a toujours eu la conviction, et j'ai toujours plus que jamais la conviction profonde que notre rôle, notre métier s'exerce non pas dans les médias, mais dans nos tribunaux et devant nos juges. Et en même temps, il serait vain de penser que ça ne joue pas un rôle et que l'on peut totalement occulter la place des médias dans ces affaires.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter de ces affaires Pasqua, puisqu'il y en a eu plusieurs? Il y a eu ce moment où vous avez pris le relais.
Il y a eu ce moment où j'ai pris le relais de manière un peu par hasard, pour dire les choses honnêtement, et comme elles se sont passées. Charles Pasqua devait comparaître devant la Cour de justice de la République. C'était un procès qui était un procès fortement médiatisé et qui était très suivi, très attendu. Et il se fait qu'il avait trois affaires à plaider devant la Cour de justice de la République. L'une dans laquelle Pierre, mon mari, intervenait. L'autre dans laquelle un autre avocat, Léon Lef Forster, intervenait. Et il y avait une troisième affaire qui était celle qui avait un lien avec l'affaire du casino d'Annemasse, qui était en fait une affaire de corruption présumée, dans laquelle on lui reprochait d'avoir, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, donné une autorisation pour ouvrir un casino pour pouvoir ensuite recevoir un remerciement pour sa liste de campagne pour le parti qui s'appelait à l'époque le RPF. Et dans le cadre de cette affaire, son avocat historique a dû se désister de sa défense. Nous étions, je crois, 3 semaines, 1 mois avant le procès. Et donc, on était dans l'interrogation, on se demandait qui Charles Pasqua allait pouvoir choisir. On passait en revue les confrères, et puis à un moment donné, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « mais attendez, c'est Jacqueline qui me défendra ». Et en fait, je dis, et c'est vrai que je n'ai même pas pensé moi-même que ça pouvait être moi, et c'est lui qui a fait ce choix. Et c'était un choix un peu vertigineux pour moi, parce qu'on était très proche de l'audience, c'était un procès avec de très lourds enjeux. Et c'est une relaxe que j'ai obtenue devant la CJR, donc c'était un moment très fort.
Vous l'avez défendu pendant de nombreuses années. D'autres affaires politiques ont suivi. À ce moment-là, vous travaillez avec votre mari et votre mari tombe malade et peu à peu, c'est vous qui prenez la relève de ce cabinet. Comment se passe cette transition et comment se passe cette transition auprès aussi de vos clients et des clients les plus célèbres que vous défendez? Jacqueline Lafont, est-ce qu'il y a des doutes?
Alors, cette transition, elle se passe évidemment douloureusement pour moi sur un plan personnel que je n'évoquerai pas ici et que j'ai géré sur un plan personnel. Et en fait, elle s'est faite de façon un peu progressive puisque la maladie à laquelle était confronté mon mari était une maladie qui n'était pas évidente à déceler dans un premier temps. Et tout ça s'est fait de manière, je dirais, au jour le jour, jusqu'au moment où j'ai compris que il n'était plus possible que Pierre continue à exercer ce métier qu'il aimait tant. Ça a été une décision extrêmement difficile pour moi, parce que j'ai dû un peu l'apprendre pour lui. Quand je dis pour lui, c'est pour lui et c'est aussi dans son intérêt, en fait. Et donc, je me suis retrouvée avec ce cabinet qui était le nôtre, dans lequel on travaillait de façon très, très liée. On était très soudés, on était un peu fusionnels, je dirais même, dans ces dossiers-là et dans la vie et dans notre métier.
Votre mari était aussi quelqu'un qui plaidait de manière très physique. C'était un de ces orateurs de cette génération de pénalistes.
Oui. C'est vrai, on le comparait à un boxeur quand il plaidait dans le boxe et il avait cette force, effectivement, de façon d'ailleurs très différente de moi. Il avait une place très importante dans ses défenses et qui, pour moi, était fondamentale. Et en fait, j'ai entrepris de parler à chacun de nos clients. Un par un, je leur ai expliqué que Pierre ne pourrait plus les défendre et qu'évidemment, il y avait Pierre et puis il y avait moi, mais on était un peu tous les deux et je trouvais normal de leur dire que ils avaient le droit. Je pense que la liberté du choix de l'avocat, elle est absolument fondamentale, de ne plus avoir envie que je les défende seule. Voilà ce que je leur ai expliqué, ce que je leur ai proposé. Et je dois dire que dans la quasi-totalité des cas, ça ne s'est pas passé comme ça et j'ai continué ce combat judiciaire parce que je pense que les procès, les longues aventures judiciaires comme celles que l'on évoque là et que l'on a déjà évoquées ensemble sont des sortes de combats pacifistes évidemment, mais sont des combats. Donc j'ai continué toute seule.
Alors pendant des décennies, c'était le couple Jacqueline et Pierre Haïk qui avait une sorte de powerful couple comme ça ensemble. Et puis ce moment où votre mari est en retrait. Vous, vous arrivez beaucoup plus dans les médias, puisque c'était pas tellement votre désir d'être mise en avant pendant les décennies précédentes, Jacqueline Lafont.
Non, c'était...
Vous aimiez pas trop les médias?
Non, c'était pas mon désir, ça ne l'a jamais été vraiment. Il se fait que j'ai donc été parachutée plus en avant, puisque je me retrouvais seule, et que l'histoire aussi, même si j'ai essayé de la garder dans mon cercle privé, a peut-être frappé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui m'a, moi, marqué à ce moment-là, j'étais plutôt dans la survie sur tous les plans, c'était que, en réalité, ce qui frappait les journalistes et les titres des journaux, c'était une femme seule à la barre, Jacqueline Lafont seule à la barre, comme si, en fait, c'était un événement en soi. Et quelque part, cette façon de présenter les choses, c'était une façon aussi de dire que finalement, bah, c'était quelque chose d'extraordinaire au sens propre du terme, alors que cela faisait en réalité des années que je plaidais, que je plaidais souvent.
Vous 23 ans.
Exactement.
La présentation était plutôt misogyne, en fait, de le présenter comme ça.
Elle aurait pu l'être. Je pense que ça n'était pas ce qui était voulu. Mais il y avait cette dimension quand même, même s'il est vrai que cette plonger seul, quand vous vous retrouvez seul, vous occupez tout l'espace, vous occupez toute la place, vous avez le poids total de la responsabilité d'une défense, vous êtes seul. Donc c'est vrai que ça change fondamentalement les choses, et moi ça les a beaucoup changées. Et en même temps, ça vous met en responsabilité complète. Donc je pense que ça donne peut-être une dimension et un autre départ, bien que évidemment celui-ci, je ne l'ai évidemment pas souhaité.
Alors ça correspond à une sorte de période aussi de transition dans le métier de la défense, progressivement la mise en retrait ou la disparition progressive d'une génération aussi de pénalistes, qui est celle aussi qui vous a formé. Peut-être on peut dire quelques mots de ces grands noms, notamment Maître Leclerc, qui a fait partie des personnes qui ont prêté l'oreille lorsque vous en avez eu besoin, Jacqueline Lafont.
Oui, alors Henri Leclerc, bien sûr, Henri Leclerc, qui était un avocat formidable, qui se distinguait par une humanité sans bornes, je pense, à la parole d'un magistrat que j'avais rencontré un jour et qui m'avait dit « il n'y a pas de bon magistrat sans humanité, je pense qu'il n'y a pas de bon avocat sans humanité, même si on devient un jour des avocats de patrons du CAC 40 ou d'anciens présidents de la République ou de ministres. » La défense, c'est avant tout cela pour moi. Et il y a eu Henri Leclerc qui a eu une place toute particulière. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu évidemment l'exemple formidable, avant que je ne prête serment, de Robert Badinter, de ce combat. Il y a eu Philippe Lemaire, que j'avais tellement admiré parce qu'il avait tenu la main de Montand jusqu'au dernier moment avant qu'il ne soit guillotiné. Il y a eu Hervé Temim, qui a occupé une place toute particulière, et notamment après le départ de Pierre, qui était un ami très cher. Il y a eu Pierre, dont je ne parlerai pas plus, parce que je pourrais en parler des heures. Et puis, Henri Leclerc, j'ai une anecdote qui est intervenue vraiment pas très longtemps avant sa mort. Je m'étais lancée dans un procès d'assises qui était à Besançon, qui était un procès extrêmement difficile, un procès d'assises qui durait 3 semaines. J'étais là-bas avec ma collaboratrice, dans une affaire criminelle dans laquelle il était accusé d'un assassinat d'une jeune femme. Et en fait, le procès s'était passé de telle manière que la ligne de défense qui était la sienne et dont nous n'avions pas réussi à le faire évoluer nous paraissait difficilement tenable. On était en train de travailler et moi je me disais, mais j'avais l'impression d'être confrontée à une impasse et à un choix que je trouvais totalement cornélien, qui était à la fois celui de ne pas vouloir trahir mon client et celui de dire que je ne pouvais pas le défendre en adhérant à 100% en tout cas à sa position. Et il était très tard, on préparait cette plaidoirie, on n'y arrivait pas, et j'ai eu l'idée d'appeler Henri Leclerc. Et ces quelques mots qu'il a prononcés à ce moment-là, il m'a pris tout de suite au téléphone, je lui ai expliqué, il suivait l'affaire. Il était déjà à la retraite, il avait arrêté de travailler, il suivait l'affaire parce que ça le passionnait. Et en fait, il a eu des mots incroyables, avec sa belle voix, qui ne l'avait pas quittée. Et il a commencé par me dire que ce que j'étais en train de faire là, c'était ce que l'on faisait de plus beau dans notre métier. C'est-à-dire de défendre ce qui paraissait tellement difficile à défendre. Il m'a redonné une force et une énergie inouïe. Et puis, il m'a dit, tu sais, de toute façon, tu te lèveras, tu trouveras les mots. Et tu te lèveras parce que il est seul contre tous et il est même seul contre lui-même. Et tu trouveras les mots justes. Et ce que tu vas faire demain, c'est le plus beau métier du monde. Et en fait, c'était pas grand-chose et c'était tout à la fois. Et c'était cette phrase qui était celle d'Henri Leclerc, qui est une phrase qui m'a marquée parce que je pense que c'est ça aussi notre métier, Henri Leclerc écrivait que voilà, on a souvent à défendre des gens qui sont seuls contre tous, mais que s'il n'en reste aucun, il reste l'avocat. Et c'est vraiment ce que j'ai compris ce jour-là. Et en fait, j'étais très heureuse de plaider, et ça m'a donné, je crois, le ton juste pour défendre pleinement ce client.
En gardant le sens de la cause.
Le sens de la cause, la recherche d'efficacité et la défense de ce client. Tout avait été fait au cours de ce procès pour l'accabler encore plus.
Est-ce que vous avez parfois un sentiment de grande solitude en tant qu'avocate de la défense à un moment où justement la presse s'empare du dossier, où des éléments accablants arrivent à l'audience et où finalement on juge aussi celui qui défend d'une certaine manière?
Oui, je pense que ce métier d'avocat est un métier parfois dur. Hein, et c'est vrai qu'il m'est arrivé de ressentir une grande solitude, parce que je me souviens que justement, quand je vous parle de cette affaire-là, j'avais des amis qui m'appelaient, me disaient « Mais qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère? Pourquoi t'acceptes encore de prendre des dossiers pareils ?» Et en fait, je n'avais que ce genre de réflexion, en réalité, et je me sentais effectivement totalement seule et incomprise. Et je dois dire que les quelques mots d'Henri Leclerc ont été merveilleux pour moi, parce qu'ils m'ont, je suis convaincue de cela, ce qu'il m'a dit ce soir-là, je sais que c'est ça mon métier. Mais de temps en temps, il y a des petites phases de découragement, d'interrogation, face à une espèce d'adversité dans laquelle vous êtes entraîné, en fait. Vous êtes l'avocat d'un homme ou d'une femme à qui l'on reproche un crime ou une infraction, qui fait l'objet de lynchage. En fait, le lynchage, c'est quand même quelque chose que l'on rencontre dans les défenses que l'on a à exercer. Et moi, en fait, c'est ce que j'aime plus que tout. C'est dur, on se sent seul parfois, mais j'aime pouvoir résister à cela.
Vous parliez d'être parfois seul et que le client pouvait être seul lui-même. Parfois, le client se met aussi l'accusé dans un pétrin, on va dire, du fait de ne pas pouvoir admettre certaines preuves, etc. Comment est-ce que vous travaillez à convaincre, préparer aux audiences? C'est très important pour un pénaliste, ça, de pouvoir préparer les clients à ce qui va se passer.
La préparation, c'est fondamental pour moi. Ce qui se passe avant le procès, c'est absolument capital. Et moi, je passe énormément de temps, d'abord à travailler les dossiers, et ensuite à préparer les clients. Je peux passer des jours et des jours et des jours à préparer les clients. Quand ils sont en prison, c'est difficile parce qu'on doit aller les voir sur place, on doit prendre nos dossiers. C'est beaucoup plus compliqué que quand ils sont libres. Mais pour moi, c'est un moment absolument décisif et je suis absolument convaincue que les quelques victoires que j'ai pu arracher dans des dossiers qui étaient perdu d'avance, en tout cas à en lire une certaine presse, ou les rapports des magistrats, ou l'avis commun. Vous avez autour de vous des gens qui vous disent « mais enfin bon, il est évidemment coupable », etc. Et en fait, ce qui, je crois, est capital, c'est effectivement cette phase de préparation.
Qu'est-ce que vous leur dites ?
J'essaie de... Alors bon, je ne suis pas non plus ni la science infuse, ni la vérité, mais je pense que nous sommes exercés à ce métier. Nous savons d'abord nous adapter à nos interlocuteurs. C'est-à-dire que je ne donnerai pas forcément les mêmes conseils à un client que je défendrai devant un juge et puis devant un autre. On doit s'adapter. Cette faculté d'adaptation, elle est fondamentale. Et on doit être exercé au fait d'être écouté. Après, le résultat est ce qu'il est, mais au moins être écouté, que ça passe d'être crédible. Et souvent, on doit lutter avec nos clients, parce que ils sont dans leur bulle de logique, de raisonnement, sans pouvoir intégrer, et c'est normal, on est là pour ça, qu'ils ne sont pas seuls dans cette bulle, qu'en face, il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qu'il faut convaincre, et qu'il faut convaincre en fonction du dossier, en fonction de la situation dans laquelle on est. Et donc, encore récemment, je n'aurai pas le nom de ce dossier, mais j'ai reçu un client qui avait été condamné en première instance, très lourdement. J'étais désignée devant la cour d'appel. Il a finalement été relaxé. Je l'ai fait changer de système de défense. Je pensais qu'il était dans le faux.
Mais lui, quel conseil vous lui donnez à lui?
Dans un cas précis dont je parle, le conseil, c'était une personne qui expliquait qu'il n'était pas dans les faits, qui était l'objet d'un énorme procès, et qui, en même temps, se plaçait comme le sachant de tout, au cœur de ce dossier, donnant son avis sur tout. Et donc, j'ai essayé de lui dire qu'il fallait savoir se taire, parfois, qu'il fallait savoir se retirer du cœur du dossier, parce que c'était absolument contradictoire, ça paraît bête, ça paraît simple, c'était absolument contradictoire à la fois d'avoir une défense qui consistait à dire « mais je ne savais pas » et en même temps de venir donner des explications à tout et d'être le sachant de ce qui se serait passé à l'époque. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, c'est une façon de se présenter. Il n'y a pas très longtemps, j'ai défendu un homme qui était mis en cause par un juge d'instruction. Lui, ce qu'il risquait, c'était sa mise en examen. Ça aurait été dramatique par rapport aux fonctions qui étaient les siennes s'il avait été mis en examen. Même si, normalement, quand on est mis en examen, on est présumé innocent. Je rappelle ça au passage, mais malheureusement, on sait que les dégâts que ça peut faire. Et en fait, il arrivait à cette instruction avec beaucoup de colère, envie de régler des comptes. Et je savais que ça n'était pas la bonne solution. Je savais qu'il fallait pas qu'il se...
Vous désamorcez.
Je désamorce. Je lui dis non, là, tu n'est pas là, je le tutoyais, mais je le connaissais depuis très longtemps. Tu n'es pas là pour te faire plaisir, quoi. On est là pour gagner. On est là pour qu'au bout du compte, même si tu t'es pris dans la figure des choses auxquelles tu aurais voulu répondre et tu ne l'as pas fait, ce qui est important, c'est d'être efficace. La seule chose qui nous dit, c'est l'efficacité. Et au bout du compte, c'est de gagner, c'est de sauver, en fait, cette personne qui vous a fait cette confiance-là énorme. Parce que même quand il n'y a pas la prison, il y a aujourd'hui... des véritables morts sociales hein, qui sont la conséquence de mise en examen et parfois même pas de mise en examen d'ailleurs.
Jacqueline Lafond, un dossier très important qui va arriver sur votre bureau, démarré du temps de votre mari que vous avez repris seul, c'est celui de l'ancien président Nicolas Sarkozy, le dossier dit des écoutes. Peut-être on va commencer par raconter cette affaire.
Oui, alors cette affaire dite Bismuth, c'est donc cette affaire dans le cadre de laquelle, effectivement, je crois que c'est la première grosse affaire, grosse, c'est-à-dire au sens médiatique connu, parce que je n'ai pas arrêté de plaider, évidemment, mais que j'ai plaidé sans Pierre, alors que nous avions commencé tous les deux, et que le président Nicolas Sarkozy, quand je l'ai placé face à ce choix, m'a dit que la question ne se posait pas pour lui et qu'on continuerait ensemble. Eh bien, c'était une pression très forte parce que j'étais très attendue. Il y avait tous ces titres « Seul à la barre », Jacqueline Lafond, « Seul à la barre », tout le monde titrait de la même façon. Je savais que j'avais déjà plaidé 100 fois, mais je savais aussi qu'il y avait une pression absolument particulière.
D'autant plus qu'elle concernait aussi le secret entre le client et son avocat.
Absolument. Et dans ce dossier, j'étais donc aux côtés d'Hervé Temim à l'époque. Malheureusement, Hervé n'était plus là au moment du délibéré de la cour d'appel, mais on a plaidé côte à côte, lui, pour notre ami Thierry Herzog, qui est avocat, moi, pour Nicolas Sarkozy. Enfin, ce dossier, pour moi, il est un exemple de tout ce que l'on ne devrait pas faire, quoi. Il est une atteinte, pour moi, caractérisée au secret professionnel qui doit exister entre un avocat et son client. Je rappelle quand même que dans cette affaire, il y a 3500 conversations qui ont été écoutées, 3 lignes de téléphone pendant 7 mois, dont une des lignes qui était une ligne dédiée, ce que les enquêteurs et les juges savaient, aux discussions entre un avocat et son client. Et moi, j'ai envie de donner cette image, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, imaginez simplement que vous êtes en train de téléphoner à votre avocat, c'est comme si vous avez assis à côté qui écoute un enquêteur, un procureur. Ayez juste cette image en tête. Et sous prétexte que c'est Nicolas Sarkozy, je crois que les gens ont oublié cette indignation qui aurait dû gagner tout le monde. Elle a gagné les avocats. Il y a eu des milliers et des milliers d'avocats qui ont signé une pétition. Mais la justice française a résisté. Nous sommes devant la Cour européenne.
Alors, il faut dire ce qui était reproché à Nicolas Sarkozy.
Ce qui était reproché à Nicolas Sarkozy, c'était d'avoir voulu aider un magistrat, un ancien magistrat à la Cour de cassation, pour obtenir des informations sur un délibéré qui était en cours devant la Cour de cassation, justement. Il était dans l'attente de ce délibéré.
Il a soupçonné d'être intervenu pour obtenir des informations.
Voilà.
En tant que président.
Il était accusé, en fait, de corruption et également de trafic d'influence. Et l'autre dimension incroyable de cette affaire, c'est qu'on l'a condamné sur une intention. C'est-à-dire que le président Sarkozy a expliqué qu'à un moment donné, on lui a demandé de rendre un service à ce magistrat, service qui n'a jamais été rendu, ce qui a été prouvé. Les magistrats ont dû admettre qu'il n'y avait pas de preuves dans ce dossier, qu'il y avait un faisceau d'indices selon eux, alors qu'en réalité, il n'y avait rien d'autre que ces écoutes très critiquables. Mais la particularité, c'est qu'il a été condamné sur le fait d'avoir eu une intention à un moment donné de rendre un service, intention dont il s'est désisté avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Et l'autre particularité de ce dossier, je crois qu'il faut quand même le dire, c'est que 11 avocats ont fait l'objet de fadettes, dont Pierre Haïk d'ailleurs, l'avocat qui n'était en rien suspecté de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a eu des dérives absolument incroyables dans cette affaire, hein, une intention réprimée, des écoutes entre un avocat et un client, des avocats géolocalisés et dont les fadettes des téléphones sont recherchées. On n'avait en réalité jamais vu ça. Et je pense qu'on touche du doigt dans ces dossiers-là un problème qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire qu'il y a des grands principes qui sont fondamentaux, et ces grands principes-là, nous les avocats, nous sommes, j'espère en tout cas, et nous devons en tout cas être les remparts contre les abus, contre tout risque d'arbitraire, et pour que ces remparts fonctionnent, il faut qu'ils fonctionnent de manière systématique. Il ne peut pas y avoir de principe à géométrie variable. Et dans ce dossier-là, en particulier, je pense que l'on a vraiment assisté à une justice qui n'a pas voulu reconnaître qu'elle avait tort. Et je dirais une dernière chose, parce que ça me tient à cœur. Il y a une polémique aujourd'hui sur la procédure des dossiers coffres que notre garde des Sceaux veut restaurer. Les dossiers coffres, ça signifie que vous avez un dossier principal et puis il y a un dossier à côté parallèle auquel la défense n'a pas droit. Eh bien, dans le dossier de Nicolas Sarkozy, il y avait un dossier coffre, il y avait cette fameuse enquête préliminaire qui nous a été cachée pendant des années alors que nous la réclamions à corps et à cri.
Alors Jacqueline Lafond, en dehors de l'affaire Sarkozy dans laquelle vous n'êtes pas neutre puisque vous êtes son avocate, est-ce que ça vous a appris quelque chose sur la manière dont sont jugés les anciens présidents ? Et les personnalités politiques, puisqu'il y a eu des rebondissements à des moments aussi électoraux clés, etc., de cette affaire. La question de la neutralité, elle pose question. La question aussi des actions politiques qu'avait pu mener Nicolas Sarkozy du côté de la justice aussi, hein, quand il était au pouvoir. Est-ce que vous avez senti que c'était compliqué, finalement, pour les anciens présidents d'être jugés ?
Je pense que... Pendant de longues années, de trop longues années, les affaires qui visaient des politiques ne pouvaient pas exister. Je pense qu'aujourd'hui, comme c'est le cas dans beaucoup de sujets qui concernent la justice ou la société, on est passé peut-être d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, la justice s'implique tellement dans ces dossiers. Elle use de moyens exceptionnels, des commissions rogatoires dans tous les sens, des procès d'une longueur qu'on ne voit jamais dans aucun autre procès, pour des faits qui ne sont pas forcément d'une complexité absolue. C'était le cas de l'affaire Bisbus, ce n'était pas des faits d'une grande complexité. Ils étaient contestés, il y avait un problème juridique qui se posait fondamental. Mais ensuite, la justice, si vous voulez, se bat pour ne pas être désavoué. Et je crois pouvoir dire que il est probablement aujourd'hui plus difficile de se défendre en faisant appliquer les principes du droit lorsque l'on est un politique.
Mais on manque de garde-fous ?
On manque de garde-fous, on manque probablement de garde-fous internes. Quand un magistrat juge un homme politique, il le connaît par définition. Il sait qui il est, il a des vents contraires qui soufflent en lui, probablement, peut-être ou pas. C'est aussi une question de rigueur. J'ai connu des magistrats exemplaires sur ce sujet. Renaud Van Ruynbeck, par exemple, n'avait pas hésité à rendre un non-lieu pour Marine Le Pen, dont chacun sait qu'il ne la portait pas dans son cœur. Il savait faire la part des choses. Je pense que tout... Les magistrats ne le savent pas. Et je pense que l'on ne peut que constater aussi qu'il y a des calendriers judiciaires et des affaires judiciaires qui démarrent à des moments très particuliers et juste avant des campagnes électorales.
Merci Jacqueline Lafond. On a évoqué l'affaire Nicolas Sarkozy aujourd'hui et d'autres grands dossiers. Demain, ça sera l'évolution de la défense. C'était À Voix Nue avec Jacqueline Lafond, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Troncin, réalisation Anne de Pelchin. Une série disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.